Alors, il faut que je vous parle maintenant du rapport des musulmans avec le monde non musulman. Selon la conception classique, le monde est réparti en deux parties. Il y a la demeure de l'islam. En arabe, c'est Dar el-Islam. Dar, c'est D-A-R, c'est-à-dire demeure ou maison. C'est là que règne la vraie paix. Vous voyez, le sens du mot paix n'est pas non plus le même. La paix n'est vraie que là où règne l'islam. Et puis, de l'autre côté, il y a la maison de la guerre, ou la demeure de la guerre. Dar, toujours pareil, D-A-R, El, Harb, H-A-R-B, ça veut dire guerre. Ces territoires de la guerre, ce sont les territoires qui doivent être soumis à l'islam. Alors, par tous les moyens guerriers, ou la persuasion, l'intimidation, et aussi la dhimmitude. La dhimmitude, c'est une arme redoutable entre les mains des musulmans pour amener le plus grand nombre de chrétiens à adopter l'islam. Et historiquement parlant, on a pu constater que des populations tout entières se sont faites musulmanes, en particulier en Europe balkanique, l'Albanie, enfin une partie de l'Albanie, il y a des chrétiens aussi en Albanie, la mère Teresa, le Kosovo, la Macédoine, la Serbie, Bosnie, etc. Ces populations, elles sont devenues musulmanes non pas sous la force de l'épée, mais à cause de la dhimmitude. Pour échapper à ce statut, eh bien, on se fait musulman. D'ailleurs, aujourd'hui encore en Égypte, chaque année, il y a des dizaines de Coptes qui se font musulmans pour être traités à égalité. Vous voyez le côté quand même redoutable hein, de la dhimmitude. Donc, dans le territoire de la guerre, il faut mener le djihad. Et le djihad, je vous ai lu le verset 5 de la sourate 9, qui fonde, qui légitime cette guerre contre les non-musulmans. Donc, partout où c'est possible, on doit mener le djihad. Dans les pays d'Occident, le fait que on a pu constater que les femmes musulmanes chez nous ont plus d'enfants que leurs compagnes dans les pays musulmans d'origine, vous voyez. La démographie chez les musulmans, chez nous, est plus importante que la démographie dans les pays musulmans. C'est significatif d'une volonté d'expansion, bien sûr. Alors ça c'est le djihad, donc c'est le combat sur la voie de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, c'est ce qu'on appelle le petit djihad, enfin petit c'est une appellation comme ça, mais qui justifie donc absolument tous les moyens. Je termine ça. Les docteurs de la loi islamique ont conçu une zone intermédiaire entre le Dar el-Islam et le Dar el-Harb. On appelle ça les territoires de la trêve. Dar el-Sol, S-O-H-L. Sol, c'est la trêve, S-O-H-L. C'est que là où les musulmans, là où le rapport de force n'est pas favorable aux musulmans, ils peuvent se contenter de vivre dans des pays laïques ou bien là où la loi islamique ne s'impose pas. En attendant, mais évidemment, tout faire pour que ces territoires-là, tôt ou tard, se reconnaissent musulmans. Alors, je ne voudrais surtout pas que vous vous inquiétiez de tout ce que je vous dis, parce que c'est vrai que ça peut être angoissant. Mais pourtant, il faut que je commence la fin là, parce que sinon on n'en finira jamais. Malgré ça, c'est vrai que l'islam présente bien des aspects non seulement dérangeants, mais inquiétants. Il faut avoir la lucidité de le voir. Rien ne sert de faire l'autruche, comme on dit, au contraire. Non, mais c'est vrai. Au contraire, il faut bien voir les choses en face. En même temps, il faut absolument bannir toute attitude qui serait dictée par la peur. La peur est mauvaise conseillère, et la peur, qui est aussi jumelée avec l'émotion, dont je vous parlais hier au tout début, attention à l'emprise de l'émotion, tout ça peut conduire à des comportements irrationnels. Et nous ne devons pas céder à ces comportements irrationnels. Donc, il est important de bien connaître la doctrine musulmane pour réagir. L'islam est un défi redoutable. C'est un défi existentiel qui nous est présenté. Vous voyez, quand on voit l'histoire du Proche-Orient, au 7e siècle, ce territoire était très largement évangélisé. Il y avait encore des groupes juifs, c'est vrai. Et l'islam est arrivé, Aujourd'hui, au XXIe siècle, il ne reste plus que dans ces territoires qui sont marqués par l'histoire biblique, ce sont les territoires sur lesquels nous avons travaillé pendant le synode. Donc dans ces territoires, sur 360 millions d'habitants, il reste à peine 15 millions de chrétiens. Donc ces chiffres parlent d'eux-mêmes, si vous voulez, et nous amènent à considérer les choses vraiment en face. L'islam est un vrai défi. Alors un défi, ça se relève, il faut le relever. Et comment le relever? Eh bien, surtout pas dans la peur, mais à mon avis, il y a deux attitudes à observer. D'abord, de nous convertir. Nous n'avons jamais fini de nous convertir en tant que chrétiens. Il faut travailler à notre conversion personnelle, mais aussi à des conversions collectives de nos sociétés. Malheureusement, l'islam arrive en Europe à un moment où nous sommes très loin de la foi de nos parents et de nos grands-parents. Il y a ce que le pape Jean-Paul II appelait l'apostasie pratique. On ne dit pas que Dieu n'existe pas, mais on se comporte comme si Dieu n'existe pas et comme si on l'avait rejeté. C'est l'apostasie pratique. Alors, il faut tout faire, chacun de nous, là où nous nous trouvons, pour insuffler dans nos sociétés les valeurs chrétiennes. Il faut refaire un tissu chrétien de l'Europe. Alors, quand je dis tissu chrétien, je voudrais bien distinguer entre le fait que nous avons, nous, en tant que chrétiens, à semer les valeurs du royaume de Dieu, c'est la vocation chrétienne, mais en même temps, nous n'avons pas à chercher à faire des États ghettos, je veux dire, à faire des États où ne pourraient vivre que des chrétiens et qui excluraient les autres. Ce n'est pas ça. La vocation chrétienne n'est pas la tentation de la Jérusalem terrestre. Nous aspirons à la Jérusalem céleste. Mais donc nous ne cherchons pas un État confessionnel, comme le font les musulmans et même les juifs en Israël. Nous avons à semer les valeurs du royaume parce que notre religion est la religion de l'incarnation. Donc, on ne peut pas se détacher, se dégager de nos responsabilités dans le monde et dans le temps, dans le siècle, comme on dit. Voyez ? Donc nous avons tous notre responsabilité, il faut rebâtir des sociétés chrétiennes, encore une fois, sans chercher la dimension confessionnelle. Vous comprenez ? La laïcité authentique, ce n'est pas la séparation des pouvoirs, c'est la distinction des pouvoirs. Selon ce que dit Jésus dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il dit aussi que à César, tout pouvoir vient de Dieu. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne te venait pas de Dieu. Donc, normalement, l'État qui dirige un pays, eh bien, il doit appliquer la loi naturelle. C'est très important. La loi naturelle telle qu'elle est indiquée par Dieu et qui n'est pas contraignante comme la loi musulmane, vous l'avez compris. Conversion personnelle de chacun et conversion collective. Alors, il est important que des jeunes s'engagent en politique, en étudiant bien la doctrine sociale de l'Église et en essayant, une fois entré dans la carrière politique, de mettre en œuvre les principes de la doctrine sociale de l'Église, sans voir la politique seulement comme un tremplin pour l'ambition. C'est bien l'ambition, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas en rester là. Donc, vous voyez, ça, c'est très, très important pour notre avenir. Et puis, nous devons aussi avoir le souci de transmettre la foi, la vraie foi, aux musulmans. Les musulmans, finalement, on ne peut avoir que de la compassion pour eux. Leur situation, ils en ont hérité, ils ne sont pas responsables. Mais si on les aime vraiment, si on les aime en Dieu, on ne peut qu'avoir le désir de leur faire découvrir la vérité sur Dieu. On ne peut pas se contenter de les laisser enfermés dans le système qui est le leur. Donc, là aussi, par tous les moyens, il nous faut essayer de montrer aux musulmans le vrai visage du christianisme. Ce matin, je vous ai parlé un petit peu de la question de la femme. Elle est centrale. La manière dont la femme vit et tout ce qui se passe en Occident, c'est un frein à l'ouverture des musulmans vers le christianisme. Voyez. Donc il y a toutes sortes de réflexions à mener là-dessus. Et notre témoignage est capital. Il faut que notre témoignage soit crédible, dans une vie droite, morale, pour que les musulmans s'interrogent voyez, par exemple, beaucoup de musulmans en Europe disent les chrétiens ne prient pas parce qu'ils voient les églises vides. Oui. Donc, il faut que des musulmans voient les chrétiens prier, mais pas prier à la manière musulmane, bien entendu. Une vraie prière, c'est-à-dire une relation directe et personnelle avec le Seigneur. Et il faut que toute notre vie soit, je dirais, que toute notre vie soit comme un cinquième évangile en chair et en os. Puisque les musulmans disent, enfin, le Coran dit que les chrétiens ont falsifié l'évangile. Ils ne croient pas que nos quatre évangiles sont vrais. Alors, comment faire? Justement, que par toute notre vie, nous soyons là pour montrer, c'est pour ça que je parle du cinquième évangile, en chair et en os. Nous devons être vrais avec nous-mêmes et vrais avec les musulmans. Alors, l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, est entrée dans une démarche de dialogue interreligieux. C'est évidemment, c'est pas facile de dialoguer avec des musulmans. Et pourtant, il le faut, mais il le faut dans quelle perspective? Le problème, vous voyez, c'est que souvent, dans les milieux catholiques, on a perdu de vue la perspective du dialogue, la finalité du dialogue interreligieux. Le dialogue, c'est bien sûr nouer des relations cordiales, amicales, quand on peut, avec des musulmans, mais pas seulement. Ce n'est pas le but, ça. Le dialogue est un moyen. Les papes l'ont dit et le redisent. Dans tous les grands documents de Jean-Paul II sur la mission, c'est indiqué. Le dialogue est au service de la mission de l'Église, de la mission évangélisatrice. Autrement dit, le dialogue n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Alors j'aime beaucoup ce que disait Paul VI dans l'encyclique que je vous ai citée hier, au tout début, sur le dialogue. C'est l'encyclique Ecclesiam Suam. Le pape Paul VI parlait d'un dialogue du salut, donc avec une perspective eschatologique qui concerne la vie éternelle. Je crois que les chrétiens, nous devons porter en nous le salut des musulmans. Et en essayant de pratiquer le dialogue dans cette perspective. Alors à partir de là, je me suis fait une définition, c'est la suivante. Ce que nous demande l'Église, ce n'est pas un dialogue de salon, mais un dialogue de salut. Vous voyez là, c'est un jeu de mots, hein, mais bon. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon. Donc il nous faut avoir ce souci et nous devons bien sûr prier. Hier, j'ai évoqué le mystère de la visitation. Priez pour que les musulmans découvrent le vrai Dieu. Ça sera un bien pour eux. Si on considère que le christianisme est un trésor, ce que normalement on doit considérer quand on est chrétien, comment est-ce qu'on va garder ce trésor pour nous-mêmes? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi être égoïste à ce point? Il faut que d'autres puissent profiter de ce trésor extraordinaire. En fait, il faudrait renverser une tendance qui voudrait faire croire que témoigner de la foi ou annoncer l'évangile, c'est exercer des pressions. Mais non, c'est pas exercer des pressions. On le fait dans la charité, avec délicatesse, en jugeant, en discernant les temps et les lieux, bien entendu. Il y a tout ce travail de discernement qui est important. Mais en même temps, il y a ce souci de voir que les musulmans, comme les autres, ont le droit de connaître Jésus-Christ. C'est un droit qui est le leur et dont nous ne devons pas les priver. Tous les documents du Concile Vatican II parlent de cette manière. Malheureusement, on a beaucoup interprété le Concile Vatican II en termes faux. Vous voyez, on parle de l'esprit du Concile, mais on ne lit pas les textes. Et voilà, alors l'année prochaine, il va y avoir, vous savez, je pense, Benoît XVI a convoqué un synode comme celui auquel j'ai participé l'année dernière, mais celui-là sera consacré à la nouvelle évangélisation, surtout de l'Europe. Et donc, on remettra tout ça, bien sûr, à l'ordre du jour. C'est un devoir pour tous, un droit pour tous de connaître Jésus-Christ, et c'est un devoir pour les chrétiens d'annoncer Jésus-Christ. Encore une fois, il y a mille et une manières, il faut discerner selon les temps, les moments, les lieux, etc. Mais on ne peut pas renoncer par principe à annoncer l'évangile aux musulmans. Il y a un évêque français, il y a quelques années, avait écrit une lettre de carême dans laquelle il disait: il ne faut pas considérer que les musulmans, dans la mesure où ils ont une religion, c'est acquis et sont par nature, enfin par par principe, imperméables, c'est ce qu'il disait, imperméables à l'évangile. Non, les musulmans ne sont pas imperméables à l'évangile, ça dépend beaucoup de nous, du témoignage individuel, du témoignage collectif. Et alors moi j'ai la chance de connaître une vingtaine d'anciens musulmans convertis. Je suis même devenue la marraine d'un musulman que j'ai préparé moi-même au baptême. Ce sont des, vous savez, des moments extraordinaires qu'on peut vivre à ces moments-là. Mais voyez, surtout, hein, restez dans l'espérance et ayez bien le souci de vos responsabilités.